Bien, bonjour à toutes et à tous. Content de vous voir ce matin. André, je te salue dans le nom du Christ. Le frère Oscar, bien d'autres personnes que je... Bon, j'ai vu tout le monde depuis longtemps. Vous allez bien? Il y a le corona, tout ça. Ben, vous savez... Il faut faire attention. Maintenant, on a mis la distance à 2 mètres, donc il faut faire attention, c'est vrai. Ce n'est pas parce que nous avons Christ qu'il ne faut pas faire attention, il faut respecter. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui nous soutient et qui nous console, n'est-ce pas? Seigneur, ce matin, j'ai à cœur de parler de toi, de ce que tu as mis sur mon cœur. Ce matin, plus qu'il y a une minute, j'ai encore plus besoin de toi pour que tu puisses effacer l'homme, pour que toi seul sois vu, Seigneur, et que ta parole soit annoncée avec zèle et hardiesse. Dirige chacun d'entre nous, Seigneur, fais exploser nos cœurs de joie et d'allégresse ce matin, pour que ton nom seul soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Il nous est mentionné dans le chapitre 37 de l'Exode qu'un jeune garçon est vendu par ses frères pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites et conduit en Égypte. Et suite à cette atrocité, il deviendra intendant et haut fonctionnaire de l'Égypte. Il est dit de lui que tout lui réussissait car Dieu était avec lui. Mais les choses vont se gâter et c'est ainsi qu'il se retrouve en prison. Chapitre 40 de l'Exode, en prison de quelques accusations mensongères de la femme de Potiphar au chapitre 39, avec laquelle il a refusé de coucher. Et même en prison, il sera oublié par les chansons pour lequel il avait interprété son rêve. C'est ainsi que Joseph, et oui, c'est de lui dont nous parlons, c'est ainsi qu'il va poursuivre sa longue traversée du désert et qu'il va rester encore 2 longues années dans les geôles de Pharaon. Joseph a maintenant 30 ans dans notre chapitre 41. Il avait 17 ans quand il a eu ces 2 rêves qui avaient attisé la haine et la jalousie, ou la jalousie et la haine de ses frères. Depuis, frères et sœurs, bien des années ont passé, surtout des années d'épreuves, des années de trahison, de souffrances multiples et variées qui ont emmené Joseph dans les prisons de Pharaon. Je vous invite à prendre avec moi Genèse chapitre 41. Et nous allons considérer les 16 premiers versets. Je n'ai pas envie de lire tout le chapitre, mais en fait c'est ce chapitre 41 qui nous intéresse. Mais nous lirons les 16 premiers versets. Chapitre 41, pardon, c'est Genèse. Chapitre 41 de Genèse. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles et à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Verset 8, le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea les vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. » Personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Amen. Alors que Joseph est en prison, le Pharaon d'Égypte fait deux rêves. Dans le premier rêve, il y avait sept vaches belles et grasses qui sont mangées par sept vaches vilaines et maigres. Ce sont les quatre premiers versets que nous avons lus. Dans le deuxième rêve, il y avait sept épis de blé gras et beau qui sont engloutis par sept épis maigres et brûlés par le vent d'est. Versets 5 à 7. Au réveil, le matin, Pharaon est troublé. Troublé par ces deux rêves, et il fait appeler tous les mages, tous les sages d'Égypte, afin qu'ils les lui interprètent. Mais aucun, le texte nous dit, aucun n'est en mesure de donner une interprétation à Pharaon. Et je note ici, frères et sœurs, l'honnêteté de ces personnages qui auraient bien pu inventer quelque chose pour s'en sortir et éviter la colère du roi. Rappelez-vous de ce chanson qui avait oublié Joseph. Et c'est ici au verset 9 de notre texte que nous retrouvons notre chanson qui, devant les similarités de ce qu'il a vécu 2 ans plus tôt dans les prisons de Pharaon, recouvre la mémoire et se souvient de Joseph. Il raconte alors à Pharaon comment Joseph, le jeune hébreu, avait interprété son rêve et celui du panetier. Tous les deux mis aux arrêts par Pharaon. Et comment ces interprétations s'étaient avérées justes. Verset 13. Tout est arrivé exactement selon l'interprétation qu'il nous avait donnée, dit l'échanson à Pharaon. Le Pharaon écoute son échanson, mais l'aurait-il écouté 2 années plus tôt? Quand il sortait tout juste de prison. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que Joseph se retrouve devant Pharaon, non sans avoir été auparavant rendu présentable, parce qu'on ne se présente pas comme cela devant le roi. Alors, ce n'est pas encore la libération de Joseph. Elle viendra peut-être, si Pharaon le veut, si Joseph obtient la faveur du roi. Joseph se tient devant donc le Pharaon, qui lui explique que personne... Personne n'a su interpréter son rêve et qu'il a appris que lui, Joseph, le pourrait. Verset 15. La réponse de Joseph au roi est pleine d'humilité. « Ce n'est pas moi, dit Joseph. C'est Dieu, verset 16. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Il est facile quelquefois pour nous de nous attribuer le mérite qui revient à Dieu. Il est facile pour nous de tirer la couverture à soi. Il est si facile de voler un peu de la gloire qui revient à Dieu. Mais Joseph, remarquez, il est droit dans ses bottes, ou plus exactement, droit dans ses sandales. C'est un homme intègre. C'est un homme qui a à cœur de rendre un bon témoignage de son Dieu. Bien des siècles plus tard, rappelez-vous, un autre hébreu va lui aussi interpréter les rêves d'un autre roi après avoir consulté Dieu. Vous l'avez compris, c'est Daniel, bien évidemment, à la cour du roi Nebuchadnezzar. Et si nous avions ici fait la mention de l'absence de Dieu au début de l'histoire de Joseph, ce n'est plus le cas ici. Le mot Dieu, dans ce seul chapitre 41, est mentionné à 9 reprises. Dieu est clairement au cœur de notre histoire. Dieu est clairement aux manettes de la vie de Joseph. Et Pharaon raconte ses rêves à Joseph. Dieu est-il aux manettes de nos vies ce matin? Dieu a-t-il les commandes de nos directions de chaque jour? En réalité, dit Joseph, après avoir écouté le récit des deux songes, les deux rêves n'en font que, dit-il. Et c'est Dieu qui indique à Pharaon ce qu'il doit faire. Il y aura d'abord 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de famine qui réduiront le pays à rien. Et on verra. Et on ne verra plus aucune trace de l'abondance dans le pays tant que la famine sera sévère. Verset 31. Et si le rêve, dit-il, s'est répété 2 fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu. La chose est arrêtée par Dieu, dit Joseph, et que Dieu va certainement se hâter de l'accomplir. Et Joseph continue, frères et sœurs. Il continue, il dit, « Maintenant que Pharaon trouve un homme intelligent et sage et qu'il le nomme intendant de l'Égypte, que le Pharaon agisse et qu'il nomme des inspecteurs dans le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les vivres et de ces bonnes années qui arrivent, qu'il fasse sous l'autorité du Pharaon des réserves de blé et de vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces vivres seront en dépôt dans le pays, pour le pays, en vue des 7 années de famine qu'il y aura en Égypte, afin que le pays ne soit pas décimé par cette famine. Profitez de ces 7 années d'abondance. Pourquoi? Pour faire des provisions. Pour prélever 1/5 des récoltes, pour stocker en vue des 7 années de famine. La cigale et la fourmi, ça vous rappelle quelque chose? Le pharaon est conquis. Oui, il est conquis par ce qu'il entend, non seulement lui, mais toute sa cour, verset 37. Joseph voulait que Pharaon comprenne que c'est Dieu qui donne l'interprétation. Et à l'évidence même, le pharaon l'a compris. Écoutez verset 38 ce qu'il dit. « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci qui a en lui le souffle de Dieu ?» Avons-nous le souffle de Dieu en nous ce matin? Et c'est ainsi que Joseph va être finalement libéré. S'il n'avait pas obtenu la faveur de Pharaon, il aurait certainement été renvoyé en prison, peut-être même mis à mort. Mais Joseph est maintenant nommé intendant de la maison de Pharaon, intendant de toute l'Égypte, versets 40 à 43. Seul Pharaon, oui, seul Pharaon sera au-dessus de lui, verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. L'autorité de Joseph sera telle que, dans sa permission, verset 44, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Qu'est-ce que j'aurais aimé être à la place de Joseph? Tout le peuple d'Égypte dépendra de ses ordres. Et pour concrétiser tout cela, concrétiser l'élévation de Joseph, Pharaon retire de son doigt la bague et la met au doigt de Joseph. C'est le verset 42, vous pouvez le voir. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui le suivait, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Vous avez vu, hein, c'est son second char, hein. Peut-être la première, c'était une Lamborghini, c'est ça? Mais la seconde, le second char, c'était pas une 4L, hein. Mais quel retournement de situation! Joseph est passé en quelques heures, frères et sœurs, de la prison à la case départ. Et pour parfaire la promotion de Joseph, Pharaon va lui donner un nom égyptien imprononçable. Sapnap Paneach. Vous comprenez la signification de ce nom et la difficulté de la prononciation. Et puis Pharaon lui donne aussi une épouse égyptienne, Asnat ou Azenet dans certaines traductions, la fille d'un prêtre d'On. On, c'est une ville à 10 kilomètres du nord du Caire, hein, et qui s'appellera plus tard dans l'histoire, vous le saviez, Héliopolis ou Héliopolis, la ville du soleil, dit-on. Joseph, l'esclave hébreu, devient égyptien. Quel retournement de situation. Pour Joseph, c'est la fin d'un long chemin de souffrance. Après la pluie, c'est enfin pour Joseph le beau temps. Frères et sœurs, parfois, Dieu permet l'épreuve dans la vie de ses enfants. Dieu permet l'épreuve dans nos vies. Parfois, il nous fait passer par des chemins étroits, des chemins difficiles, des chemins où les circonstances plaident en la faveur de l'abandon de Dieu. Et la question que l'on peut se poser, alors, c'est la suivante. Mais dans quel but? Mais pourquoi faire? Dieu n'est-il pas assez bon? Dieu n'est-il pas assez puissant pour garder ses enfants des chemins difficiles? La réponse à ces questions ne concerne ni la bonté, ni la puissance de Dieu. Mais premièrement, la réalité du monde déchu dans lequel nous vivons. Le fait est que, pour l'heure, frères et sœurs, Dieu tolère le mal et la souffrance aussi dans le monde. Mais un jour Dieu éradiquera tout cela. Il en a la puissance. Un jour Dieu jugera le monde et le péché. Et dans sa bonté, parce qu'il nous aime, il a déjà pourvu en Christ la solution pour régler le problème du mal et de la souffrance. Amen. Dans nos vies, mais aussi dans le monde. Un jour, frères et sœurs, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les choses, les premières choses que nous connaissons aujourd'hui auront disparu. Un jour, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais pour l'heure, oui, pour l'heure, rien n'est encore comme cela devrait être. Pour l'heure, nous vivons dans un monde déchu, profondément marqué par le péché et toutes ces circonstances. Dieu est-il dépassé par les événements? Dieu n'est-il pas assez bon? Dieu n'est-il pas assez puissant pour nous garder des chemins difficiles et rocailleux? La réponse à ces questions ne concerne ni la bonté, ni la puissance, mais deuxièmement, la réalité et la réalisation de sa volonté. C'est-à-dire, le fait que Dieu accomplit son plan, ses desseins, le fait qu'il l'a fait, qu'il l'ait fait dans un monde déchu, mais aussi dans la vie de ses enfants et au travers de leur vie. Le fait aussi qu'il le fait parfois en se servant des circonstances difficiles, des circonstances inhérentes au monde déchu dans lequel nous vivons. Savez-vous que Dieu est le seul à faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime? Les bonnes et les mauvaises, les joyeuses et les douloureuses, pour le bien, c'est-à-dire pour le salut de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Et frères et sœurs, il est bon ici de se rappeler que dire cela, dire que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants, dire que Dieu se sert des circonstances difficiles de nos vies, ne veut pas dire que Dieu cautionne le mal. Ne veut pas dire que le mal devient bien. Ne veut pas dire que la souffrance est bonne. Ces choses, frères et sœurs, sont et resteront toujours des anomalies dans la création de Dieu. Mais il se trouve que pour l'heure, dans sa souveraineté, Dieu les tolère encore. Et il s'en sert même parfois pour accomplir ses desseins. Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu se trouve aussi dans l'épreuve. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas forcément le confort, le bonheur tel que nous l'imaginons si souvent. Ce n'est pas l'absence d'épreuves. Ça l'est parfois, mais pas forcément. La bénédiction de Dieu, c'est avant tout un regard favorable de Dieu sur nos vies, sur ma vie, sa présence dans ma vie, dans nos vies, son salut, sa paix et toutes les bénédictions spirituelles qui sont attachées à lui. Et ça c'est vrai, oui ça c'est vrai que je sois dans la joie ou dans l'épreuve. Et ça c'est vrai que ça soit visible ou pas. Vous l'avez compris, la notion clé de notre passage et de toute la vie de Joseph, d'ailleurs, c'est la souveraineté de Dieu. Si vous cherchez un titre pour le message ce matin, la souveraineté de Dieu dans la vie du croyant. Nous croyons, oui, nous croyons avec la Bible que Dieu est souverain. Nous croyons qu'il tient toutes choses dans sa main. C'est-à-dire notre monde déchu, tous les dirigeants de ce monde, des nations, les rois et même les présidents. Et aussi la vie de ses enfants dans sa main. Donc nos vies aussi sont dans la main de notre Dieu. Dans un ancien message, je vous avais parlé de la souveraineté de la providence. Et je vous avais donné des définitions. Je vais encore vous les donner. La souveraineté de Dieu, c'est le fait que Dieu est au-dessus de tout et que tout lui est soumis. Au-dessus de tout et que tout lui est soumis. La providence divine, c'est le fait que le hasard n'existe pas, ni dans ce monde, ni dans notre vie, parce que Dieu est souverain et qu'il dirige toutes choses pour la réalisation de son plan. Alors, comment se manifeste la souveraineté de Dieu dans notre texte? Elle se manifeste dans la vie de Joseph. Une vie conduite par Dieu. Une vie préparé par Dieu, une vie dont Dieu contrôle les tenants et les aboutissants pour accomplir ses desseins. Comment se manifeste la souveraineté de Dieu dans notre texte? Elle se manifeste dans cette nation égyptienne. Une nation dont Dieu tient la destinée dans sa main, une nation dont Dieu contrôle l'économie, dont Dieu contrôle les récoltes, une nation dont Dieu tient le roi dans sa main. Pourquoi? Pour accomplir ses desseins. Et tout cela dans le but de la réalisation de ses plans, de ses desseins et de sa volonté. Quel est précisément le plan de Dieu dans notre texte? C'est d'abord celui de sauver son peuple de la famine à venir, comme vous pouvez le lire dans les chapitres suivants. C'est celui d'accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham. C'est celui de préparer le salut de son peuple. Et puis aussi par extension, frères et sœurs, de préparer la venue du Messie qui viendra de ce peuple qu'il va sauver de la famine. De préparer la venue du Messie pour le salut de quiconque croit en lui. Et écoutez, il fallait que Joseph... Pour cela, devienne vizir d'Égypte, haut fonctionnaire d'Égypte. Il fallait pour cela qu'il puisse un jour accueillir ses frères, venus chercher des provisions en Égypte, parce qu'il n'y avait plus rien à manger à Cana. Et pourtant, c'était un lieu où devait couler le lait et le miel. Il fallait pour cela que Joseph soit vendu comme esclave et finisse dans les prisons de Pharaon pour être un jour élevé comme nous venons de le voir. Les chemins difficiles par lesquels Dieu a fait passer Joseph et dont il nous fait passer aussi quelquefois étaient tous dans la main de Dieu. Il en connaissait le commencement et la fin et il dirigeait toutes choses pour accomplir sa volonté. Y avait-il d'autres chemins possibles? Peut-être. Dieu seul le sait. Ce que nous savons, et c'est cela notre part, c'est qu'il a conduit les choses ainsi, comme il a voulu, dans ses plans. Qu'en est-il de moi et qu'en est-il de vous ce matin? Qu'en est-il de ma vie et qu'en est-il de votre vie? Qu'en est-il de mes difficultés et qu'en est-il de vos difficultés? Échappe-t-elle au contrôle de Dieu? Que Dieu soit souverain sur la vie et les circonstances de Joseph, c'est facile à accepter, c'est vrai, c'est la Bible, c'est normal. Mais qu'il soit souverain dans ma vie, dans ta vie, dans nos circonstances, dans mes difficultés, dans ce qui me fait mal, qu'il soit souverain dans la vie de l'Église, même quand cela ne se passe pas tout à fait comme on le voudrait, c'est encore autre chose, n'est-ce pas? Pourtant, soit Dieu, il est toujours souverain, soit il ne l'est jamais. Mais la réalité, c'est que Dieu est toujours souverain. Toujours souverain. Dieu est bon en tout temps. Que je le sache ou pas, que je le comprenne ou pas, que je le voie ou pas, que je l'accepte ou pas, cela ne change rien. Dieu est toujours souverain. Et parce que Dieu est souverain, je peux lui faire confiance en tout temps. Je peux croire en sa parole, en ses promesses, même quand les circonstances sont contraires. Je peux espérer contre toute espérance. Je peux croire que même les chemins difficiles sur lesquels Dieu me fait marcher n'échappent pas à sa souveraineté. Et font même partie de son plan pour ma vie. Tu es en train de passer certains moments difficiles et compliqués? Sois fidèle, sois patient. Dieu est là. Souvent, lorsque tu ne vois que deux pas sur le sol, souviens-toi que c'est à ce moment-là que Jésus te porte. Et parce que je sais ces choses, parce que je sais que ma vie est dans la main de mon Dieu, je peux être dans la paix, même au jour de l'épreuve, même au jour des chemins difficiles, même au jour de la souffrance, et même au dernier jour, au jour de ma mort, je peux être dans la paix parce que Dieu tient ma vie et ma destinée dans sa main. La vie de Joseph est un bel exemple pour nous ce matin. Bien sûr, nous ne sommes pas Joseph. Bien sûr, Dieu n'attend pas de nous ce qu'il attendait de Joseph. L'histoire de Joseph est unique. C'est l'histoire du salut. C'est l'histoire de cette grande révélation de Dieu qui amène Jésus-Christ. C'est unique. Mais ce n'est pas nous. Ceci dit, nous les chrétiens de l'Église biblique d'Argenteuil, oui, nous pouvons être fiers. Nous, les disciples de Jésus-Christ, nous sommes aussi le peuple de Dieu. Nous sommes aussi le troupeau que sa main conduit. Et Dieu n'est pas moins souverain aujourd'hui qu'au temps de Joseph. Dieu n'est pas moins souverain aujourd'hui qu'au temps de Joseph. Qui peut dire ce que Dieu fait, veut faire et fera de ma vie si je lui fais confiance? Qui peut dire ce que Dieu fait, fera et veut faire de votre vie si vous lui faites confiance? Frères et sœurs, quelles que soient de grandes ou de petites choses, l'importance n'est pas vraiment là. Elles seront la volonté de Dieu pour notre vie et comprendre cela, c'est un bien tellement précieux. C'est une aide tellement réelle au jour de l'épreuve, au jour des chemins rocailleux, au jour de l'adversité. C'est une aide tellement précieuse dans les bons comme dans les mauvais jours. Vous le savez comme moi, c'est souvent après coup que nous voyons comment que toutes les pièces du puzzle fonctionnent ensemble, vont ensemble dans notre vie. Et très souvent, nous avons le nez dans le guidon, nous sommes incapables de voir cela. Il faut du recul et c'est souvent quand nous regardons en arrière que nous comprenons alors un peu mieux, parfois, ce que le Seigneur nous a fait vivre. Parfois, Dieu nous fait la grâce de comprendre comment telle et telle pièce s'emboîte dans nos vies. Et puis parfois, frères et sœurs, il nous demande tout simplement à vous et à moi de l'accepter sans comprendre. Un jour, dans la gloire, je crois que nous comprendrons beaucoup de choses. Mais que nous comprenions ou pas les chemins sous lesquels Dieu nous fait marcher, c'est toujours à la confiance que Dieu nous invite et nous appelle. Faire confiance à celui qui est souverain, à celui qui tient ma vie dans sa main, notre vie dans sa main, à celui qui tient la vie de notre église dans sa main, à celui qui tient toutes choses dans sa main et qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son projet. Faisons-lui confiance. Il est en train d'accomplir ce matin même sa volonté en nous et au travers de nous. Faisons-lui confiance. Il est toujours en train de nous préparer pour que nous puissions encore mieux le servir pendant et après cette pandémie. Faisons-lui confiance, frères et sœurs, même quand nous ne voyons pas le bout du tunnel. Faisons-lui confiance parce qu'il a toutes les pièces du puzzle dans sa main. Parce qu'il est souverain. Pour finir, j'aimerais encore et encore souligner la souveraineté de Dieu. Quelquefois, elle n'est pas trop évidente. Je vous l'accorde. J'ai fait aussi l'expérience. Mais la suite du texte nous montre clairement que Dieu est tout sauf absent de cette histoire. Et ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas les circonstances que nous vivons que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que nous souffrons et vivons de choses difficiles que Dieu n'est pas en train de nous conduire. Il y a pour nous ce matin dans l'histoire de Joseph un appel à faire confiance à Dieu. Quelles que soient les circonstances de ta vie, de ma vie, de notre vie, même quand j'ai le sentiment, nous avons le sentiment que Dieu nous a abandonnés, même si nous avons le sentiment que Dieu est absent dans cette difficulté qui nous chagrine, même quand Dieu, il semble être aux abonnés absents. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce de toujours lui faire confiance, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et nous pouvons être assurés ce matin qu'il est toujours avec nous dans toutes nos circonstances, même les plus difficiles. Il est celui qui n'est jamais bien trop loin de nous. Il est celui sur qui je peux compter toujours, en toutes circonstances. Dieu est bon en tout temps. Que Dieu vous bénisse. Amen.